Je vais effectivement vous présenter l'impact d'un changement climatique sur les Alpes françaises. Bon, je précise qu'il ne s'agit pas de mes travaux uniquement personnels, mais des travaux de l'équipe que je dirige à Grenoble. Ce qui expliquera au passage qu'il y a une certaine hétérogénéité dans les transparents. Il y en a même qui sont en anglais parce que j'ai pioché un peu dans diverses contributions. Alors je vais rapidement donc vous présenter un petit peu ce qu'est la neige en quelques mots et comment on l'étudie et on la modélise. Ensuite, je vous parlerai des tendances qui sont observées sur les décennies du passé, les évolutions attendues pour le futur, et puis je terminerai par les domaines connexes à l'étude de la neige elle-même. Donc la neige, c'est un matériau qui est assez complexe. Donc ici, vous avez un certain nombre d'images de cristaux de la neige au moment de sa chute. Donc l'Organisation mondiale de la météo en répertorie plus d'une centaine différents. Donc ces cristaux, une fois qu'ils arrivent au sol, vont évoluer constamment au cours de leur vie. Donc on va avoir un matériau qui va être extrêmement variable en termes de propriétés physiques, que ce soit en termes de densité, de cristallographie, de propriétés radiatives ou thermiques. Bon, heureusement, par rapport à ces dizaines de cristaux différents, une fois que la neige est au sol, elle va évoluer assez rapidement et on n'aura plus affaire qu'à une dizaine de grandes familles, ce qui est déjà suffisamment complexe. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de faire un sondage dans le manteau neigeux, donc vous avez peut-être pu observer différentes strates de neige. Donc, c'est une des caractéristiques du manteau neigeux, c'est que c'est un milieu qui est stratifié. Et à chaque fois qu'une chute de neige tombe sur le manteau neigeux en place, une nouvelle couche se crée. Et donc, lorsqu'on ouvre le manteau neigeux, on observe une espèce de millefeuille. Et c'est comme ça qu'on le documente et qu'on l'observe en documentant ces différentes couches de neige. Et donc c'est un matériau qui est en perpétuelle évolution. Ici, vous avez les différents types de cristaux tels qu'on va les rencontrer au sein du manteau neigeux, avec à gauche plutôt les cristaux au début de leur vie, et puis une évolution en fonction des conditions thermodynamiques qu'on rencontre au sein du manteau neigeux, vers des différents types de cristaux, soit des cristaux plutôt anguleux, soit plutôt arrondis. Alors maintenant, à l'échelle des Alpes, là vous avez une représentation un peu schématique des Alpes françaises, avec au nord le lac du Léman et puis en bas à droite la Méditerranée. Et puis ici les grands sous-massifs alpins, qui sont un petit peu les entités sur lesquelles nous travaillons, sur lesquelles nous modélisons le manteau neigeux. Donc, on divise les Alpes en une vingtaine de massifs, et pour nous, c'est un petit peu l'échelle de référence, notre échelle de travail. Alors, si on regarde par exemple la hauteur de neige à 1800 mètres d'altitude sur ces différents massifs, on voit que sur les Alpes, on a un gradient assez marqué entre un gradient nord-ouest-sud-est. Avec des hauteurs de neige. Alors ici, pardon, non, on a la durée de l'enneigement. Donc le nombre de jours moyens avec de la neige au sol pendant une année. Donc cette durée de l'enneigement varie pour le nord des Alpes à peu près 7 mois. Et puis lorsqu'on descend vers le sud-est, on descend de manière assez régulière jusqu'à des valeurs qui sont plutôt de l'ordre de 5 mois. Bon, en fait, cette distribution de l'enneigement, elle reflète en fait les régimes, un petit peu les régimes météorologiques auxquels les Alpes sont soumises. Donc, avec deux grands régimes principaux qui apportent, qui seront favorables à l'enneigement, c'est des perturbations arrivant par le nord-ouest, donc en général des courants d'air froid et assez humides, et puis des perturbations venant du sud, donc de la Méditerranée, avec également un air humide, mais pas forcément aussi froid. Et puis également, ce gradient est dû aussi aux différences de température liées aux différences de latitude. Bon, si on regarde la hauteur de neige moyenne pendant l'hiver, on retrouve la même répartition avec un enneigement assez fourni dans la partie nord-ouest et puis relativement plus faible dans le sud-est du massif alpin. Alors là, évidemment, ce que je vous ai présenté, c'était des moyennes sur 40 hivers, mais on sait tous qu'il y a une très forte variabilité de l'enneigement d'une année à l'autre. Donc ici, vous avez pour chacun des hivers de la période 58 à, de 1958 à 2000, donc toujours à 1800 mètres d'altitude, les variations de l'enneigement par rapport à la normale des 40 ans. Donc lorsque c'est vert ou bleu, on est au-dessus de la normale. Et lorsqu'on est orange ou rouge, on est en dessous de la normale. Donc on voit qu'on a des hivers extrêmement bien enneigés dans le passé. Et puis certaines années, comme par exemple les années 89-90, où l'enneigement a été particulièrement déficitaire sur l'ensemble des Alpes. On voit aussi que parfois on a des contrastes marqués entre le nord et le sud des Alpes. Donc cet enneigement, il varie beaucoup, beaucoup d'une année à l'autre. Alors, qu'est-ce qui va conditionner la vie du manteau neigeux et son évolution tout au long de la saison? C'est essentiellement ce qui va être déterminant, c'est les conditions météorologiques à la surface du manteau neigeux. Donc, pour étudier l'évolution de la neige, on est amené à prendre en compte ces échanges entre l'atmosphère et le manteau neigeux. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui vont déterminer ce qu'on appelle le bilan énergétique de surface de la neige, c'est-à-dire est-ce qu'en surface, la neige va recevoir de l'énergie de l'atmosphère ou au contraire, est-ce qu'elle va en perdre. Donc, si la neige gagne de l'énergie, perd de l'énergie, ça va se traduire par une baisse de sa température. Et au contraire, si elle en gagne, ça va au départ se traduire par une augmentation de sa température. Et puis si elle en gagne suffisamment pour atteindre une température de 0 degré, ça va se traduire par de la fonte du manteau neigeux. Donc dans la plupart des cas, enfin en tout cas sous nos latitudes tempérées, quand le manteau neigeux commence à fondre, quand le manteau neigeux fond, c'est par la surface. C'est extrêmement rare qu'il y ait une fonte à la base et c'est vraiment... sporadique, enfin, c'est dans quelques conditions bien particulières en début de saison quand le sol est encore chaud, mais sinon pour le reste du temps, la fonte se produit par la surface, en surface de la neige. Alors, les conditions météorologiques qui vont influencer l'évolution du manteau neigeux, ça va être donc le rayonnement reçu, l'équilibre entre le rayonnement reçu par la neige et celui qui sera émis, donc le rayonnement solaire. Donc la neige va avoir tendance, comme toute surface à la surface de la Terre, à réémettre une partie du rayonnement visible qu'elle reçoit. La grosse différence avec les autres surfaces, qui en général réémettent une fraction à peu près, un ratio à peu près constant dans le temps du rayonnement qu'elle reçoit. Pour la neige, ce n'est pas le cas. La proportion de rayonnement qu'elle va réémettre dépend de l'état de la neige et dans des proportions importantes. C'est-à-dire qu'une neige très fraîche va réémettre 90% de l'énergie visible qu'elle reçoit, alors qu'une neige de fin de saison, de printemps, n'en réémettra que la moitié. Deuxième source d'énergie sous forme de rayonnement pour la neige, c'est le rayonnement infrarouge. Donc ça, c'est le rayonnement qui est émis par l'atmosphère ou par la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Ensuite, autre source ou puits d'énergie, donc il s'agit des flux turbulents. Donc ce sont des flux soit liés à la convection, soit des flux liés au processus de sublimation ou de condensation. Et puis également des flux liés aux précipitations elles-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige, ces précipitations amènent des quantités d'énergie. Évidemment, il y a également des échanges avec le sol, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas très importants par rapport aux échanges en surface. Alors, on prend en compte tous ces phénomènes à la surface du manteau neigeux, et ensuite, à l'aide de modèles, on simule ce qui va se passer au sein du manteau neigeux. Alors, un certain nombre de processus physiques, tels que la conduction thermique dans le manteau neigeux, les phénomènes de fonte et de regel, de percolation de l'eau au sein de la matrice de glace, de métamorphose des cristaux, donc d'évolution de la cristallographie, des phénomènes de tassement, pour décrire donc l'évolution du manteau neigeux. Alors on a mis au point un modèle qui permet de reproduire ces évolutions, de prendre en compte ces phénomènes et de reproduire ces évolutions, et donc qui calcule en fait un profil du manteau neigeux suivant la verticale. Et pour ce profil, donc, on a un profil de la température, du type de grain contenu dans la neige, du contenu en eau de la neige, un profil de densité également. Donc on arrive à reproduire de manière assez fidèle l'évolution du manteau neigeux en connaissant les paramètres météorologiques à sa surface. Alors voilà un exemple. Donc ici, on est sur un de nos sites de mesure pour lequel on a tout au long de la saison hivernale une mesure de la hauteur de neige. Donc on voit les différentes phases avec des petits pics qui correspondent à différents moments où il y a des chutes de neige et puis ensuite des diminutions qui sont liées soit à des phénomènes de tassement au cours de l'hiver, soit en fin d'hiver, là on est dans une phase de fonte, donc là c'est carrément la disparition du manteau neigeux. Donc là on a toute une saison d'évolution de la neige avec la phase d'accumulation, la phase de fonte. Et à partir des paramètres météorologiques qui sont mesurés sur le même site, on reproduit cet enneigement avec notre modèle. Donc c'est la courbe en bleu et on voit qu'on a une reproduction assez fidèle de la réalité en termes de hauteur de neige. Alors voilà d'autres exemples de résultats du modèle. Donc, parce qu'évidemment, on ne calcule pas que la hauteur de neige. On calcule, alors on a ces petits graphiques par exemple qui nous donnent, qui nous indiquent le profil de température dans la neige, le profil de densité. Ce petit histogramme correspond au type de grain qu'on rencontre dans le manteau neigeux. Bon, je ne m'attarde pas trop, mais donc on simule de manière explicite un certain nombre de processus physiques et on reproduit les caractéristiques du manteau neigeux. Alors ici, vous avez un autre type de graphique où là, on a l'évolution du manteau neigeux tout au long de la saison et puis les différentes couleurs qui nous montrent les types de grains et leur évolution au cours du temps, qui permettent d'avoir une analyse rétrospective sur l'ensemble de la saison. Donc, initialement, ce modèle de neige a été développé pour la prévision du risque d'avalanche, pour laquelle il est utilisé de manière opérationnelle depuis une quinzaine d'années. Mais il est également utilisé pour des applications plus recherche, comme des applications en hydrologie ou pour le climat. Alors pour la suite de ce que je vais vous présenter, donc le modèle dont je vous parlais, c'est le modèle du milieu qui s'appelle Crocus. Et on l'alimente donc avec un modèle en amont qui s'appelle le modèle Safran et qui en fait nous donne accès aux paramètres météorologiques de montagne. Donc on alimente notre modèle de neige avec des paramètres météorologiques et on n'a pas suffisamment un réseau de mesures suffisamment dense pour pouvoir l'alimenter en tout point du massif alpin. Donc on utilise également un modèle numérique météorologique en entrée. Alors on n'utilise pas directement les modèles type le modèle Arpège utilisé pour la prévision météorologique parce que la précision de ces modèles n'est pas suffisante sur les zones de montagne. Donc on est obligé d'adapter les sorties du modèle météorologique grâce à ce module Safran qui va nous permettre d'affiner la connaissance des paramètres météorologiques en zone de montagne. Et puis en aval de Crocus, donc qui lui calcule l'enneigement, on a un autre modèle qui s'appelle MEPRA et qui lui fait une analyse de la stabilité du manteau neigeux, utilisé donc essentiellement pour la prévision des avalanches. Donc cette chaîne, comme je l'ai dit, est utilisée de manière opérationnelle. Bon, là, je vais plutôt vous présenter une application recherche orientée vers le climat. Alors pour ce qui concerne la neige, je vais donc commencer par vous parler un petit peu des tendances que l'on observe. Alors je ne reviens pas trop sur ces graphiques parce que je pense que on a déjà dû vous en parler abondamment au cours des dernières présentations. Donc le climat se réchauffe, bon maintenant c'est devenu une évidence et je pense que ce n'est pas tellement remis en question par les scientifiques. Oui, enfin la plupart des scientifiques, je voulais dire. Bon, sur la France, on a des cartes assez précises du réchauffement qu'on a observé au cours du dernier siècle. Et on a également, nous, si on regarde sur la partie alpine, on a des mesures, donc par exemple à Grenoble depuis environ 130 ans, qui nous montrent que, bon, on a eu au cours du dernier siècle des évolutions, des années chaudes et des années froides avec un certain mélange entre les deux, sans tendance très nette au départ. Mais par contre, dans les dernières années, on a quand même une succession d'années chaudes particulièrement remarquable. Et donc là, c'est sur un peu plus d'un siècle. Alors, moi, les résultats dont je vais vous parler maintenant concernent surtout les 40 dernières années, à peu près à partir du début des années 60. La raison est simple, c'est qu'en fait, déjà des séries aussi longues, donc sur un siècle, elles sont quand même relativement rares, en ce qui concerne les paramètres météorologiques. Et en ce qui concerne la neige, elles sont inexistantes au niveau français. On n'a pas de série d'un siècle sur des mesures d'enneigement. Donc les séries les plus anciennes dont on dispose, elles ont 40 ans, et encore, elles ne sont pas très nombreuses. Alors ensuite, on a des méthodes pour compléter ce déficit en mesure, et donc on arrive à obtenir des résultats relativement généraux et fiables sur les 40 dernières années. Par contre, on ne dispose pas de suffisamment d'observations, même météorologiques, pour pouvoir étudier les tendances sur la période avant 1960. Donc on est limité aux 40 dernières années. Ceci dit, c'est quand même une période de temps suffisamment conséquente pour pouvoir en déduire des résultats assez fiables sur les tendances. Alors, une de nos séries d'observations de référence pour ce qui concerne le manteau neigeux, c'est le col de Porte. Donc, il se trouve dans le massif de la Chartreuse, donc pas très très loin d'ici. C'est un des massifs des Préalpes, des Alpes. Donc c'est un site qui se trouve à 1300 mètres d'altitude et qui a été exploité dès le début des années 60, justement pour étudier la neige. Donc même s'il n'est pas très haut, il est assez bien enneigé du fait de sa position géographique. Et donc on y fait des études, on y fait des mesures depuis le début des années 60. Alors par exemple ici, on a représenté sur ce graphique la hauteur de neige moyenne pour la deuxième décade de février, du 10 au 20 février. Et donc on voit que cette hauteur de neige moyenne, elle est assez variable d'une année à l'autre. Il y a des années où elle est pratiquement à zéro, et puis il est arrivé qu'elle dépasse 2 mètres. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi la deuxième décade de février? C'est que pour ce site-là, c'est à peu près climatologiquement la période où l'enneigement est maximum. Donc ça nous donne une assez bonne idée du bon ou du mauvais enneigement du site cette année-là. Bon, mais malgré la variabilité assez importante d'une année à l'autre, on voit quand même que sur la fin de la période, on a une diminution assez nette de l'enneigement, puisque par exemple, dans les 10 premières années, on dépassait à peu près une fois sur deux 1,50 m de neige à cette période-là, alors que sur les 10 dernières années, on ne dépasse qu'une fois les 1,50 m. Alors, si on regarde par exemple le nombre de jours avec neige au sol sur ce site, là aussi on voit qu'on a une tendance assez marquée à la diminution, puisque au début des années 60, on avait environ 6 mois d'enneigement continu, et puis sur la fin de la période, on a perdu à peu près un mois sur cette durée de l'enneigement. Alors, comment mesurer également les paramètres météo sur ce site-là? On peut regarder ce que ça donne en termes d'évolution. Donc, la courbe en rouge au-dessus, vous montre la température de l'air pendant l'hiver. Alors, l'hiver un peu au sens large, hein, du 1er décembre au 30 avril. Et donc, on voit qu'on a une augmentation de la température de l'air qui, sur la période de 1960 à 2005, est d'à peu près 2 degrés. Pendant la période hivernale. Donc ça explique bien la diminution de l'enneigement. L'histogramme bleu correspond à l'évolution, enfin aux mesures, au cumul de précipitations sur la même période, donc pendant les mois d'hiver, pour chacune des années. Alors bon, là on n'a pas vraiment de tendance très marquée, hein. C'est aussi fortement variable, mais la tendance est à peu près constante. Par contre, ce qui change quand même sur cette période-là, c'est le ratio entre précipitations neigeuses et précipitations pluvieuses. C'est-à-dire qu'on a une augmentation proportionnellement, on a une augmentation des chutes de pluie et une baisse des chutes de neige. Alors ensuite, bon, là c'était sur un site, l'avantage c'est qu'on est sûr de la qualité des mesures, on a une continuité de la mesure. On n'a pas beaucoup de sites comme ça dans les Alpes. Par contre, évidemment, c'est en un point donné. Donc après, ce qu'on cherche à faire, c'est de généraliser ces observations. Donc là, pour faire ça, donc on s'appuie sur les modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur Safran et Crocus. C'est-à-dire qu'on on cherche à collecter le plus grand nombre de mesures possibles, et notamment météo, et puis on reconstitue l'enneigement à partir de ces données. Et donc, par exemple, si on regarde les résultats sur le massif de Beldon pour la période donc 1960-2000, on retrouve un peu les résultats. Donc là, on est un peu plus haut, hein, on est à 1800 mètres, mais néanmoins, on retrouve les résultats qu'on observait ponctuellement au col de Porte. Alors ici, là, c'est sur la période hivernale. Donc on voit que sur la période 60-80, ce qui concerne la température de l'air, bon, on n'a pas vraiment de tendance. Et puis à partir du début des années 80, on a une augmentation assez marquée. On retrouve un petit peu la même tendance pour les moyennes de température estivale. Et donc on retrouve la même chose sur la moyenne annuelle. Voilà, si on regarde les précipitations sur le même massif, on voit un signal moins clair sur la quantité totale de précipitations, donc la courbe en noir au-dessus. Par contre, sur les quantités de neige, on voit une diminution une diminution assez nette, et notamment à partir du début des années 80. Alors ça, c'était sur un massif donné. Maintenant, si on regarde plusieurs massifs, donc là, vous avez sur la première ligne, c'est le massif du Chablais, donc représentatif des Alpes du Nord. La ligne du milieu, c'est le massif des Grandes Rousses, donc plutôt Alpes centrales, Alpes françaises centrales. Et puis, Parpaillon, donc plutôt un massif représentatif des Alpes du Sud. Et puis, dans chacune des colonnes, on a représenté, donc pour ces trois massifs, une altitude donnée, donc 900, 1800, 2700 mètres. Bon, c'est intéressant parce qu'on voit que déjà les tendances sont assez proches. Après, bon, on a des petites variations locales, mais globalement, c'est une baisse de l'enneigement qui est particulièrement marquée à partir du début des années 80, enfin, qui se précise à ce moment-là. Et puis, on retrouve cette baisse à 1800 mètres d'altitude, mais moins nette. Et puis, à 2700 mètres, on n'observe pratiquement pas de tendance. Donc, la diminution de l'enneigement, elle est d'autant plus nette que l'on se place à basse ou moyenne altitude. Et donc, cette tendance, elle est générale à l'ensemble des Alpes. Ce qu'on observe localement au col de Porte, on le retrouve à des degrés plus ou moins marqués, et puis un peu en fonction de l'altitude, mais on le retrouve sur l'ensemble des Alpes, donc ce qui nous laisse penser qu'il s'agit bien que la cause, c'est l'évolution du climat. Alors, ce qu'on observe pour l'enneigement, on le retrouve aussi sur d'autres... Il y a d'autres marqueurs qui le montrent, notamment les glaciers. Alors ça, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, hein, le glacier d'Argentière, par exemple, donc, à Chamonix. Donc, dans les années 50, c'est un glacier, 1850, pardon, c'est un glacier qui descendait pratiquement au bas de la vallée. Hein, il n'était pas très loin de l'altitude du village d'Argentière. Et puis, un siècle plus tard, à peu près la même photo, il a nettement reculé. Et il n'est plus du tout au niveau de la vallée. Alors là, c'est des courbes qui ont été établies. Donc, il s'agit des bilans de masse des glaciers, c'est-à-dire du volume de glace de différents glaciers à travers les Alpes. Donc du début, on a des données à partir de 1850 pour l'ensemble de ces glaciers. Et donc sur un siècle et demi, on voit que sur toutes les Alpes, la tendance de ces bilans de masse est à la diminution. Alors bon, là c'est un des glaciers les plus proches de Grenoble, donc particulièrement bien instrumenté par le laboratoire de glaciologie. Bon là c'est sur une période un peu plus courte, hein, de 1900 à 2000, avec différentes méthodes de mesure, donc ça correspond aux gros triangles et puis aux petits, qui sont parfaitement cohérentes entre elles. Et on observe une diminution de ce bilan de masse du glacier avec deux périodes où la fonte a été particulièrement intense. Donc c'est les années 40, donc une période qui a été particulièrement chaude, notamment l'été 1947. Et puis à partir du début des années 80, où là à nouveau on a une période de décroissance importante. Donc cette diminution du bilan de masse des glaciers, Pour les années antérieures aux années 1900, on pense que c'est probablement dû à une baisse des précipitations. Par contre, pour le XXe siècle, on a mis en évidence qu'il n'y avait pas de signal sur les précipitations. Donc, ce qu'il explique, c'est l'augmentation des températures estivales. Donc, ce n'est pas tout à fait la même raison que pour la diminution de l'enneigement, puisque la neige, elle est sensible à ce qui se passe en hiver, mais ça va quand même, c'est quand même lié au réchauffement global de l'atmosphère. Alors, les évolutions qui sont attendues pour le futur. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur les scénarios climat, parce que là, je pense que vous avez eu aussi des présentations assez précises là-dessus. Donc, globalement, on s'attend à un réchauffement, bon, suivant les scénarios climatiques attendus, enfin, les scénarios climatiques retenus, un réchauffement prévu pour la fin du siècle à venir qui s'étale entre 2 et 6 degrés, alors avec des variations saisonnières. Bon, les modèles français ont plutôt tendance à prévoir une augmentation des précipitations hivernales, notamment sur la région alpine. Bon, ça dépend des modifications de la circulation océanique en particulier. Bon, des augmentations de précipitations qui seraient de l'ordre de grandeur de 10 à 20%. Bon, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ces valeurs, mais une tendance quand même, enfin la même tendance prévue par les modèles français. Alors, si on regarde en termes juste de sensibilité de l'enneigement à l'évolution de ces paramètres météorologiques, parce que si on dit une augmentation de 2 degrés ou de 4 degrés, on ne se rend pas forcément compte immédiatement ce que ça peut vouloir dire pour la neige, pour le manteau neigeux. Alors voici, bon, je prends un exemple particulier, mais c'est quelque chose qu'on généralise assez bien. Donc là, je reprends la courbe que je vous montrais tout à l'heure, donc où on reproduit l'enneigement sur notre site du col de Porte. Donc là, c'est la courbe calculée par le modèle, donc la hauteur de neige tout au long de l'hiver. Pour donc le climat présent, hein, on est sur l'année 98-99. Alors, ce qu'on s'est amusé à faire, puisque cette courbe, en fait, je vous rappelle, on l'obtient en calculant, en simulant le manteau neigeux, uniquement à partir des paramètres météorologiques qu'on mesure toutes les heures. Donc, on fournit ces paramètres au modèle de neige, et lui, il va calculer l'évolution du manteau neigeux tout au long de l'hiver. Alors, on fait une expérience assez simple, on refait la même simulation, mais on ajoute systématiquement à la température de l'air une valeur de 2 degrés, et on regarde ce que ça donne sur la neige. Voilà. Et donc ça donne la courbe en orange. Donc on voit que à cette altitude-là, en tout cas, le manteau neigeux, il est extrêmement sensible à une petite variation, enfin une relativement petite variation de la température de l'air, qui est pas si petite que ça, mais c'est 2 degrés, c'est pas non plus 6 degrés. Alors, il faut quand même dire qu'il est très sensible parce que on est sur un site où la température de l'air pendant l'hiver n'est pas très froide, même au cœur du mois de février. On a des températures qui peuvent être, enfin qui sont pas très très froides. Donc, si la température de l'air augmente de quelques degrés, on se retrouve très vite près de la température de fusion de la neige. Donc, du coup, on a une sensibilité qui est très forte. Et puis, une sensibilité aussi du type de précipitation qui va tomber. C'est-à-dire que très vite, on passera de précipitations neigeuses à des précipitations sous forme de pluie. Qui explique cette réduction importante. Alors maintenant, on a fait la même expérience, mais cette fois, non seulement on ajoute 2 degrés à la température de l'air, mais on augmente aussi 15%, de 15% les précipitations, puisqu'on voit que c'était un petit peu les tendances qu'on voit dans les scénarios climatiques. Donc, augmentation de la température de l'air, augmentation des précipitations. Est-ce que l'augmentation des précipitations, donc plus de chute de neige, ça peut compenser le fait que la température de l'air augmente? Bon, la réponse, c'est non. Donc, le résultat, c'est la courbe verte. On voit que, effectivement, ça augmente un petit peu l'enneigement pendant l'hiver, mais on est bien en deçà de la réduction liée au réchauffement de la température de l'air. Alors, ensuite, bon, ce type d'expérience, on le généralise donc à l'ensemble des Alpes, par exemple, puisque nos modèles fonctionnent sur l'ensemble des Alpes, donc on peut généraliser ça et on peut affiner la manière de prendre en compte l'évolution du climat. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, ici, vous avez le nombre de jours d'enneigement par an, donc le graphique qu'on voyait tout à l'heure pour le climat actuel. Alors, à 1500 mètres d'altitude, alors à gauche, c'est pour enfin ce schéma-là, donc c'est pour le climat présent. Donc là, on le simule avec notre modèle, mais ça reproduit assez bien ce qui se passe dans la réalité, hein. Donc on a le gradient nord-ouest-sud-est dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis donc on fait le même genre d'expérience, mais en prenant en compte les résultats d'un scénario climatique. Alors là, on a pris un scénario B1, c'est-à-dire un scénario plutôt optimiste en termes de réchauffement, c'est-à-dire où le développement économique fait que le réchauffement est relativement limité. Et quand même et donc on retient l'idée d'un taux de CO2 multiplié par 2, non pas de plus 50%. Et voilà ce que ça donne pour l'enneigement, donc simulé avec notre modèle, en retenant ces hypothèses sur le scénario climatique. Donc là, on calcule pour les mêmes massifs le nombre de jours d'enneigement par an sous cette hypothèse de scénario climatique. Donc on voit qu'à 1500 mètres d'altitude, bon, on garde évidemment le gradient entre le nord et le sud, et globalement, on a une réduction de l'enneigement qui est de l'ordre de 40 jours à peu près sur la durée. Donc aussi bien au sud qu'au nord. Alors ici, on a refait on a le même genre de graphique, mais cette fois, on se place à 3000 mètres d'altitude. Donc certains massifs ne sont plus représentés parce qu'ils n'atteignent pas ces altitudes. Donc là, on voit qu'on a également une réduction en altitude, mais qui est moins marquée, qui est plutôt de l'ordre de 20 à 30 jours sur la durée de l'enneigement. Et puis, donc en relatif aussi, c'est moins important puisque on est sur des durées d'enneigement annuelles qui sont beaucoup plus importantes, qui sont de l'ordre de 250 à 300 jours par an, donc 20 à 30 jours en moins. Relativement, ça a moins d'impact. Alors, on fait le même genre de calcul sur la hauteur maximale de neige, la hauteur maximale de neige, par exemple. Bon, on peut le faire aussi sur l'enneigement moyen, et on retrouve le même genre de résultat. Donc, avec ici la référence, donc le climat présent. Avec des hauteurs bon, qui sont dans le nord des Alpes supérieures à 1,50 m, dans le sud de l'ordre de 50 cm, et puis donc sous un scénario d'augmentation de la température de l'air de 1,8 degrés, donc ce ne sont pas non plus des scénarios extrêmes. On voit que notamment dans le sud des Alpes, on a un enneigement maximum pendant l'hiver qui devient vraiment faible. Alors ici, bon, on avait pris un seul scénario. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est en essayer plusieurs, parce qu'on pourrait, on pouvait se dire, bon, on a pris ce scénario-là, mais est-ce que si on en prenait un autre, on n'aurait pas des résultats différents? Et donc là, vous avez, alors ici, on a moyenné, donc en abscisse, on a l'altitude à laquelle on se place. Et puis, donc sur le graphique du haut, c'est l'anomalie de hauteur de neige, c'est-à-dire la hauteur de neige prévue pour un scénario donné, moins la hauteur de neige pour le climat actuel. Et puis, les différentes courbes, ça correspond à différents scénarios de climat qu'on a pris. Alors, ce n'est pas des hypothèses différentes sur le taux de CO2. Tous ces scénarios correspondent à un doublement du taux de CO2. Ce qui change, c'est le modèle de climat lui-même. Donc, on a pris le modèle du CNRM, le modèle du laboratoire de météorologie dynamique, un modèle anglais, puis un modèle allemand. Et donc, bon, évidemment, on trouve des courbes avec des écarts parfois importants. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est quand même que la tendance, c'est la même, hein, c'est une réduction assez forte. Et puis également, un caractère commun à toutes ces courbes, c'est que les effets les plus forts, on les trouve à des altitudes comprises entre 1200 et 1800 mètres, et qu'ensuite, plus on s'élève en altitude, et moins l'effet est important. Donc moins le réchauffement a un effet important sur le manteau neigeux. Le schéma du bas, bon, mais montre à peu près la même chose, sauf que là, ça concerne la durée de l'enneigement. Alors l'anomalie, hein, c'est-à-dire combien de jours d'enneigement on perd en fonction toujours de l'altitude. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire bon, alors le scénario le plus pessimiste, il prévoit une diminution de l'enneigement qui va de 50 à 60 jours, hein, sur l'année. Alors que le scénario le plus optimiste prévoit plutôt des diminutions de l'ordre de 30 à 40 jours. Et là aussi, on voit qu'il y a un effet très fort sur la moyenne montagne et puis moins marqué à plus haute altitude. Donc ça, c'est vraiment des tendances qui sont globales, enfin qui sont générales à tous les modèles et sur lesquelles on peut être assez sûr. Alors, une des questions qu'on se pose aussi, c'est quelle est l'évolution qu'on peut attendre sur les avalanches? Alors, dans ma présentation sur les tendances observées, je ne vous ai pas parlé des avalanches, parce qu'en fait, on ne dispose pas de données suffisamment fiables et exhaustives sur les avalanches pour pouvoir faire des statistiques dessus, et on n'observe pas de tendance. Bon, les Suisses ont fait le même genre d'études, avec peut-être des données un peu plus complètes que nous, du fait que chez eux, les montagnes représentent une grande partie du territoire, mais sur un siècle, ils ne trouvent pas de tendance non plus. Alors, on peut l'expliquer de différentes façons, et notamment par le fait que les avalanches sont des phénomènes qui sont un peu extrêmes. C'est pas comme l'enneigement, qui est quelque chose d'assez régulier dans son déroulement. Bon, les avalanches, ça dépend déjà de situations météorologiques particulières, de situations du manteau neigeux, d'instabilité qui sont un peu exceptionnelles. Donc pour détecter des tendances sur des phénomènes extrêmes, c'est beaucoup plus compliqué que sur un phénomène assez régulier. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, vu qu'on modélise la stabilité du manteau neigeux, ça nous donne un indice sur l'activité avalancheuse. Donc, en utilisant notre chaîne de modèles, on a essayé d'estimer si l'évolution attendue du climat aurait un effet sur sur le risque d'avalanche. Donc, en fait, là, les graphiques qu'on voit, c'est le nombre de jours où notre modèle estime que le risque est modéré ou fort. Alors, pour le climat actuel, donc on a cette zone. Donc on voit que les Alpes du Nord sont plus concernées que les Alpes du Sud. Enfin, il y a plus de jours avec un risque important sur les Alpes du Nord. Bon, ce qui correspond assez bien à la réalité. Donc il s'agit d'avalanches naturelles, hein, je n'ai pas précisé. C'est-à-dire, ce n'est pas des avalanches déclenchées par un skieur ou un promeneur, c'est des avalanches qui se produisent spontanément. Et pour le climat futur, donc en prenant une hypothèse de réchauffement de 2 degrés et en appliquant le modèle Crocus puis ce modèle MEPRA, on voit qu'on a une tendance à la réduction de l'indice d'instabilité du manteau neigeux, bon, qui n'est pas extrêmement marqué, hein, néanmoins. On retrouve à peu près la répartition du climat présent. Et globalement, on a une réduction qui est probablement liée au fait qu'on a un manteau neigeux qui se stabilise plus vite. C'est-à-dire que la neige fraîche, lorsqu'elle tombe, dans un climat modifié, elle aurait tendance à évoluer plus rapidement et donc à produire moins facilement des avalanches de neige naturelle. Bon, mais ça reste quand même à confirmer. C'est une étude qui est assez prospective. Alors, les résultats qu'on obtient, ça intéresse évidemment les exploitants des stations de ski, par exemple. Alors, le genre de graphique qu'on peut faire aussi, ça nous permet d'étudier certaines périodes un peu clés pour les exploitants des stations. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a représenté pour la période de référence, donc actuellement, et puis sous hypothèse d'un changement climatique. Alors, ça correspond en fait. Alors, à gauche, c'est la période du 20 au 30 décembre, et puis à droite, du 15 au 30 avril. Bon, qui sont des périodes un peu critiques pour les exploitants. En général, février, c'est de toute façon bien enneigé. Bon, il arrive qu'il y ait un accident, mais en général, il n'y a pas de problème. Par contre, sur ces vacances un peu périphériques, on peut ne rien avoir du tout, et ça peut poser des problèmes pour les exploitants. Donc, on a regardé sur ces périodes-là. Alors, en fonction de l'altitude, en abscisse. Le nombre de jours, donc sur les 10 jours considérés, le nombre de jours en moyenne, la hauteur de neige est supérieure à 20 cm. Bon, donc on voit que pour. Là, on est dans le massif de Belledonne, donc juste à côté de Grenoble. Donc on voit que pour la période de fin d'année, les vacances de Noël, déjà alors pour le climat présent, même en assez haute altitude, enfin, le nombre de jours en moyenne pour lesquels l'enneigement est considéré comme bon, il est assez variable d'une année sur l'autre, hein, puisque la moyenne peut être relativement loin des 10 maximum. Et puis, si on a un réchauffement climatique, on aura une dégradation assez prononcée de ce nombre de jours. Et donc, les vacances de Noël, qui déjà actuellement sont parfois un peu difficiles, ça risque de se dégrader de manière assez importante. Pour la période du mois d'avril, on a un graphique qui est assez différent, puisque là, on a un enneigement qui, en général, est meilleur en fin de saison. Bon, le manteau neigeux, en général, au mois d'avril, n'a pas commencé à fondre à toutes les altitudes ou pas de manière suffisamment importante pour que ça pose un problème, bon, sauf peut-être à très basse altitude. Et par contre, le réchauffement climatique a un effet très marqué sur les premières tranches d'altitude et ensuite assez rapidement au-delà de 2000 mètres. Par contre, on n'a pas de. Enfin, on garde des conditions d'enneigement relativement bonnes. Donc bon, ça c'est ce genre de résultat, ça peut intéresser les exploitants par rapport à leur stratégie de développement. Donc en conclusion sur l'évolution de la neige, on peut dire qu'on a un impact qui sera marqué à moyenne et basse altitude. Et qui est déjà notable, hein, au travers des observations que j'ai pu vous présenter, notamment sur le site du Col de Porte, que l'impact sera beaucoup plus faible en haute altitude, et en particulier pendant l'hiver. Que, contrairement à une idée reçue parfois, l'augmentation des précipitations ne sera pas en mesure de compenser celle des températures. Donc ça peut un peu tempérer l'effet, mais ça ne peut pas le compenser complètement. Alors, pour revenir aux exploitants des stations de ski, donc la neige de culture, on pense qu'elle ne pourra pas compenser de manière durable l'absence de neige naturelle, bien que bon, il n'y ait pas d'études quantitatives qui aient été faites sur ce sujet, mais il faut quand même du froid pour produire de la neige de culture. Pour l'instant, il n'y a pas de méthode qui permette d'en produire sans l'absence de froid. Et donc le réchauffement. Forcément, il sera aussi un frein à la production de neige de culture. Et puis, pour la partie avalanche, on a vu que le réchauffement semblait conduire à une stabilisation plus rapide du manteau neigeux, qui pourrait avoir pour effet de réduire le nombre d'avalanches naturelles. Bon, mais ça reste encore un sujet à étudier. Et puis, ça ne concerne pas les avalanches déclenchées, donc qui sont quand même l'essentiel des avalanches qui provoquent la mort de personnes en France et qui sont beaucoup liées à la fréquentation. Alors, je vais terminer rapidement par les domaines connexes au manteau neigeux, mais qui sont assez liés. Alors, les glaciers, donc j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, ils sont en récession depuis un siècle et demi. Et pour les projections pour le siècle en cours, pour un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, on considère qu'il serait très fortement réduit, voire qu'il disparaîtrait pour la plupart. Il ne resterait sans doute comme glacier significatif que ceux dans le massif du Mont-Blanc, qui atteint des altitudes beaucoup plus élevées que les autres massifs. Des Alpes françaises. Alors, un autre effet, ça concerne le pergélisol, qui sont les zones de sol qui restent gelées toute l'année. Donc, en France, c'est des zones qui sont à plus de 2500 voire 3000 mètres d'altitude, suivant qu'on se place dans les Alpes du Sud ou les Alpes du Nord. Donc, le réchauffement, ça aura tendance à diminuer ces zones gelées. Leur extension, et puis ça peut créer, ça peut provoquer un risque de chute de blocs qui sont maintenus par le gel et qui, dans ce cas-là, se trouveraient déstabilisés. Donc, c'est un risque qu'on peut qualifier de faible parce qu'en fait, on est quand même dans des zones de très haute altitude, donc où l'activité humaine est peu développée. Ceci dit, il n'est pas très bien quantifié non plus parce qu'on a très peu d'études en France qui concernent cet aspect-là, moins que nos voisins suisses ou autrichiens, par exemple. Bon, pour ce qui concerne la végétation, du fait du réchauffement et puis de l'évolution du manteau neigeux, on a une élévation de la limite supérieure des forêts, et puis une diminution donc du domaine des plantes spécifiquement alpines au profit de plantes d'autres plantes mieux adaptées aux nouvelles conditions. Donc ça produit des risques de disparition. Et ce qu'on observe déjà un petit peu, c'est des migrations d'espèces. Alors, bon, c'est soit en latitude, des espèces qui ont tendance à remonter vers le nord, ou alors à remonter en altitude, pour essayer de retrouver quelque chose qui ressemble à leurs conditions climatologiques favorites. Et puis des effets sur l'hydrologie également. Puisque si on a une modification observable sur le manteau neigeux, ça produit inévitablement une évolution sur les régimes des rivières, et notamment des rivières à régime niveau glaciaire, qui se traduit par une baisse des étiages et une diminution globale des débits. Et puis de manière cohérente, on a également une augmentation de l'évaporation dans les bassins versants de montagne. Donc, très rapidement pour illustrer ça. Par exemple sur l'hydrologie. Donc là, alors, bon, ça correspond à une étude assez détaillée, donc le résultat ça a été présenté de manière la plus synthétique possible. Donc le graphique du haut, c'est sur le bassin versant de la Durance, donc la Haute Durance, hein, on est en amont de Serre-Ponçon, donc on n'est pas perturbé par un barrage. Là, on a représenté en moyenne, alors on a différents scénarios, hein, donc c'est pour ça qu'on a différentes courbes, mais là encore, la tendance est la même. Du mois d'août, on commence au mois d'août, donc, et puis ensuite on passe l'hiver et on revient au mois de juillet. On a l'enneigement moyen du bassin. Alors la courbe la plus élevée, c'est l'enneigement actuel. Et puis les autres courbes, c'est l'évolution de l'enneigement en fonction de différents scénarios. Donc on voit que on a une réduction de l'enneigement maximum qui est assez marquée. Et puis en plus, l'enneigement maximum, il est plus. Dans le climat actuel, dans le bassin versant en moyenne, il est maximum au mois de mars. Et là, il est plutôt maximum vers le mois de février. Donc on décale la période où l'enneigement est maximum. La fonte commence plus tôt. Et puis bon, ensuite l'enneigement il est réduit de manière plus ou moins marquée pendant toute l'année. Parce que même dans les parties hautes du bassin versant, on est enneigé au mois d'août. Hein. Donc on a une valeur qui n'est pas nulle au mois d'août. Et cette valeur-là, par exemple, dans les scénarios, sous un scénario climatique, elle est réduite du mois d'août au mois de décembre, durant toute l'année. Et sur le graphique du dessous, donc ici, on a le débit de la Durance à l'exutoire du bassin versant, qui est fortement conditionné par l'évolution du manteau neigeux. Alors là, à nouveau, le trait noir, c'est ce qui se passe actuellement. Donc actuellement, on a à l'automne, on a des débits bon, qui sont soutenus par notamment les orages. Pendant l'hiver, on a des débits qui sont faibles en raison du peu d'alimentation de la rivière, c'est-à-dire qu'il fait suffisamment froid pour qu'il y ait assez peu d'eau qui s'écoule vers la rivière. L'essentiel des précipitations tombe sous forme de neige et cette neige ne fond pas, donc la rivière est peu alimentée. Et par contre, à partir du mois de mars-avril, la neige commence à fondre. Donc le débit il augmente de plus en plus. Et puis on a le pic du débit qui se produit vers le mois de mai ou de juin, avec des valeurs assez importantes. Bon, et pour un scénario, enfin, pour différents types de scénarios climatiques, ce qui se passe, c'est que la neige fondant plus vite, ce pic, on l'atteint pratiquement un mois plus tôt. Pour la plupart des scénarios, il est fortement réduit. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a des diminutions qui vont de 10 à plus de 30%. Et donc ensuite, les débits qu'on a pendant les mois d'été, eux, ils sont beaucoup moins importants. Et on peut même penser que les périodes d'étiage vont être fortement réduites, puisque l'alimentation en été se fait souvent uniquement par les parties glaciaires ou enneigées du bassin. Et là, ces parties-là étant réduites, on a une alimentation de la rivière qui est beaucoup plus faible. Voilà. Pour les glaciers, donc ici par exemple c'est le glacier de Saint-Sorlin, donc qui se trouve dans le massif des Grandes Rousses. Donc là, c'est la courbe que je vous montrais tout à l'heure hein, sur ce même glacier où on voit que le bilan de masse il s'est beaucoup réduit dans les 20 dernières années. Alors les petits triangles, c'est les mesures. Et ce qu'on a reproduit en violet, c'est le bilan de masse qu'on calcule. Qu'on modélise avec un modèle numérique dont on arrive à reproduire assez bien ces mesures. Et on calcule même on calcule ce bilan de manière spatialisée, c'est-à-dire que on arrive à reproduire les variations de l'épaisseur de glace en différents points du glacier. Donc ça, c'est très important pour connaître l'évolution globale, parce qu'un glacier, le fonctionnement du glacier, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'il y a une zone dite la zone d'ablation dans laquelle le bilan est négatif. C'est la zone qu'on voit en rouge là. C'est-à-dire qu'il perd plus de glace qu'il n'en gagne sur cette zone-là. Et puis au contraire, il y a une zone d'accumulation, c'est la zone en bleu, où là, il gagne plus de glace qu'il n'en perd. C'est essentiellement lié à l'altitude et puis aux chutes de neige sur ces parties du glacier. Et donc, ce qu'on a représenté là, le bilan de masse global, c'est l'intégration du bilan sur ces différentes zones. Donc, les parties positives, les parties négatives. Et à ça, il faut encore ajouter le fait que le glacier, en fait, il n'est pas immobile. Il s'écoule lentement, mais il s'écoule. Donc, il faut aussi en tenir compte pour avoir une bonne idée de son évolution. Bon, tout ça, on l'a pris en compte sur ce glacier-là. Et donc, si on regarde cette image en trois dimensions pour le siècle à venir, on calcule comment... ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était le bilan. Hein, donc, le delta, est-ce que c'était positif ou négatif. Là, par contre, on représente vraiment la masse de glace. Alors, plus c'est bleu, plus il y en a. L'épaisseur, voilà, pardon. Donc l'actuel, en 2030, 2060, et puis en 2092, dans nos calculs, il n'est plus là. Alors bon, il y a des incertitudes, bien sûr. Hein. En plus, on a pris un scénario B1, donc plutôt modéré. Mais pour ce pauvre glacier, on pense que d'ici la fin du siècle, il aura disparu. Alors bon, il ne faut pas généraliser trop vite parce que c'est pas un glacier très important pour les Alpes, mais ça reflète bien la tendance de ce qu'attendent les glaciers pour le siècle à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Une très courte réponse. Question brûlante sur les glaciers. Bon, s'il n'y a pas... Oui, si.
Je voulais juste revenir sur la photo de l'Argentière en 1850. Est-ce que le glacier, c'est pas quand même dû au petit âge glaciaire qu'il y avait juste avant et qui fait qu'on avait hérité d'un glacier important à ce moment-là? Et que de toute façon, il allait régresser.
Oui, tout à fait. C'est la situation en 1850, ça tient compte de tout un historique qui s'étend sur des décennies. C'est-à-dire que l'évolution du glacier, la photo du glacier à un instant T, ça représente un historique de plusieurs décennies auparavant.